Le Seigneur est merveilleux. J'aimerais de nouveau lire les versets dans Jean 17. Quelqu'un pourrait les lire? Jean 17, 21 à 23.
Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Amen. Que tous soient un, comme toi en moi et moi en toi, afin qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Amen. Quelqu'un pourrait lire aussi Jean 10, verset 30. Il est très court. Quelqu'un pourrait le lire. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Moi et le Père, nous sommes un.
Amen.
Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Quelqu'un peut lire aussi, lire dans 1 Timothée, 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire.
Amen.
Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Gloire à Dieu. C'est vraiment bien qu'on puisse être ensemble. Ce serait mieux en présentiel, bien sûr, mais c'est aussi un moyen tout à fait pratique et qui marche bien. J'aimerais revenir un peu à ce qui a été partagé hier soir, parce que je pense que c'est très important qu'on voit ce qui a été partagé, ce qui a été dit. Voir une chose, c'est bien différent de simplement le savoir. Dans ces temps, j'ai beaucoup un fardeau que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, qu'on n'accumule pas de la connaissance biblique simplement, ou bien qu'on ait des bonnes communions, des bonnes réunions avec des paroles agréables, avec une parole profonde. Mais plus que ça, c'est bien plus important, et c'est important pour le Père, pour Dieu. C'est vraiment un de ces fardeaux les plus importants, c'est que nos yeux puissent voir, être ouverts. Aussi en ce qui concerne, puisqu'il en parle dans Jean 17, en ce qui concerne l'unité, être un, il en parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous soient un comme moi en toi et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Il s'agit de l'unité entre le Père et le Fils. Déjà hier, ça m'a impressionné de voir que cette unité est bien différente de ce que nous imaginons, ou bien de ce qu'on connaît sous le terme unité. Il y a beaucoup de formes d'unité, en fait, qu'on connaît. Il y a déjà un aspect, bien sûr, que les gens soient un. Mais, oui, nous pouvons être un entre nous dans un certain sens. Par exemple, des gens qui sont du même avis ou le même hobby, dans un certain sens, ils peuvent être un, unis. Mais l'unité dont il s'agit ici est différente. Et ça, moi, je trouve c'est vraiment merveilleux et ça m'a impressionné. C'est une unité que nous connaissons à travers le Père et le Fils. Je trouve que c'est bien si on le contemple, si on regarde à lui. Si on regarde comment le Père et le Fils étaient un. Ce matin, j'aimerais parler de ça. Il s'agit de Christ. Hier, on a dit que Jésus est venu sur la terre pour amener quelque chose de nouveau. Et là, quelque chose de nouveau s'est passé. Pourquoi? Là, il y avait un homme qui était un avec Dieu. Ça veut dire le Père était en lui et lui était dans le Père. Le Seigneur doit vraiment nous ouvrir les yeux pour qu'on le voit, qu'on le comprenne, que cette unité nous soit révélée. Dans Jean 17, il prie au début déjà. On sait que c'est une prière. Au verset 3, je lis, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça, c'est la vie. Quand nous le connaissons, nous avons la vie. Quand nous le connaissons, lui, le Père et le Fils. Dans la Bible, on voit toujours à nouveau, par exemple chez Paul, que Paul a prié que les Éphésiens, pour donner un exemple, le connaissent lui, qu'ils connaissent le Père de gloire. Qu'ils reçoivent un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître pleinement. Nous aussi, nous avons besoin de cet esprit de révélation. Nous avons besoin de cette révélation pour voir cette unité entre le Père et le Fils. Il ne s'agit pas de parler ici, de donner un enseignement sur ce qu'est l'unité, pour qu'on comprenne mieux comment le Père et le Fils étaient un. Franchement, ça ne m'intéresse pas de parler d'une théorie. Nous devons le connaître, lui, que nous soyons plus proches de lui, comprendre comment il est. Qui il est, ça c'est la vie. Cette vie-là, c'est ça dont il s'agit. C'est cette gloire que le Père nous a donnée. C'est cette lumière qui brille aujourd'hui. Au point 2 de mon résumé, j'ai marqué « Connaître le Fils et le Père ». Cette unité est quelque chose de tout à fait nouveau, comme on l'a vu hier. Oui, dans l'Ancien Testament, Dieu est apparu toujours à nouveau. Il s'est manifesté, il a montré sa gloire. Il est apparu de différentes manières. Une fois dans un buisson, dans ce buisson ardent à Moïse. Il s'est révélé là. Une autre fois dans une nuée. Il s'est révélé de différentes manières. Mais quand Jésus est venu, il y a quelque chose qui s'est passé qui était totalement différent, qui n'est jamais venu auparavant. C'était nouveau, c'était unique. Dieu s'est révélé dans un homme. Dieu s'est révélé dans un homme. C'est très impressionnant. Et c'est aussi très mystérieux. La Bible, si on lit, il y a beaucoup de mystères, c'est vrai. Mais celui-là, ce mystère-là, est tellement grand. C'est le mystère de la divinité. C'est Dieu manifesté en chair. Il aimerait être manifesté à travers un homme et il l'a fait quand Jésus est venu sur la terre. Il est Dieu. S'est révélé à travers la vie d'un homme, à travers un homme. Il faut un petit peu lâcher nos concepts et nos pensées et peut-être on pense que Dieu peut se révéler à travers une grande lumière et des choses un peu étonnantes, mais Dieu s'est révélé par Christ. Quand on le voit lui, quand on le voyait lui, on pouvait voir le Père quand Jésus était sur terre. Hier, on a lu dans Jean 1, par exemple, un verset, et j'aimerais le relire. Je crois que c'est un verset très important. Le verset 18, quelqu'un pourrait le lire?
Johannes 1, vers 18.
Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître.
Amen.
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 Personne n'a jamais vu Dieu. C'est vraiment incroyable. Dieu n'est pas visible. Personne n'a jamais vu Dieu. Et j'ai trouvé bien, comme ça a été dit hier, son fardeau, c'est pourtant de se manifester et de se révéler. Son désir, c'est de montrer sa gloire. C'est vrai qu'il est apparu et on pouvait voir quelque chose de sa gloire. Mais ici, il y a quelqu'un qui est venu. Il est venu pour nous le faire connaître. En fait, Jésus, sa mission, c'était de nous faire connaître Dieu. L'invisible, par lui, on peut connaître le Dieu vivant. Et c'est pour cette raison que le Seigneur est venu sur cette terre. J'aimerais aussi lire un autre passage qui est très, très, très marquant. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il y en a qui l'ont reconnu. Par exemple, il a demandé à ses disciples, « Qui pensez-vous que je suis ?» Et Simon a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et puis le Seigneur constate, et même il lui dit, « C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. » C'est pour ça qu'on a besoin de lumière et des révélations. Il doit vraiment ouvrir et illuminer les yeux de notre cœur. À un autre endroit, dans Jean 6, il parle de manger sa chair et son sang, boire son sang. Pour les Juifs, mais c'était une parole qu'ils ne pouvaient pas accepter. D'après leur loi, ils ne pouvaient pas du tout boire du sang, toucher au sang, manger le sang. Alors, d'autant moins manger la chair d'un homme. Et souvent, je me disais, mais pourquoi les disciples disent, Pierre répond, il connaissait la loi, puis il a répondu quelque chose d'incroyable, il a dit, où devons-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, ses disciples avaient compris quelque chose. Il y a quelque chose auprès du Seigneur. Ça, il l'avait vu. Le Seigneur doit nous montrer, doit nous ouvrir les yeux. Si nous le contemplons, pas avec un cœur qui est recouvert de voiles, non, il doit les enlever. Il ne doit pas y avoir de voiles sur notre cœur. Si nous n'avons pas enlever les couvertures de notre cœur, si le Seigneur ne les enlève pas, nous ne verrons rien de cette unité. On peut lire quelques-uns des passages le passage dont j'ai parlé dans Jean 14 qui me marque beaucoup. C'est au verset 8 de Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et le Seigneur lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il parle tellement à Philippe, il lui pose plein de questions. Non, il lui dit, ça fait si longtemps que je suis avec toi. Voilà ce qu'il lui dit. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que si tu me vois, tu vois le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu l'as contemplé, regardé, mais tu pouvais voir le Père, tu pouvais voir Dieu. Mais ça, c'est quoi cette unité? Je crois que c'est extraordinaire. On doit absolument changer notre façon de penser. C'est pas une unité parce qu'il était du même avis que le Père. Bien sûr qu'ils avaient le même avis, mais c'est pas ça la source et la base de cette unité. C'est pas parce qu'ils avaient le même but. C'est pas ça la source de cette unité. C'est vraiment un mystère. Cette unité ne vient pas d'un enseignement. Quand deux personnes ont la même opinion ou le même enseignement, j'ai que ma femme à côté de moi, j'aimerais voulu vous donner un exemple, mais admettons qu'un frère ait les mêmes avis que moi. S'il me regarde, il voit quand même encore qu'un frère en moi. Mais là, il est dit que si on regarde Jésus, on voit le Père. Donc ce frère, il devrait voir. Il ne devrait pas me voir seulement comme une autre personne, en fait. Il est cet homme qui a révélé Dieu, qui l'a exprimé. Et ça, c'est un mystère. Et il faudrait qu'on le découvre davantage. La base, et ça on pourrait le lire dans Jean 1, au verset 4, si quelqu'un peut le lire.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Amen. En lui, il y avait la vie. Et la vie était cette lumière pour les hommes. La vie est la lumière, est ce qui éclaire les hommes. La vie, c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas... C'est pas que le Seigneur était un homme simplement irréprochable, qu'il a tout fait juste. Mais c'était une question de vie. C'était la vie qui était la lumière des hommes. C'est par la vie qu'on peut voir. Et ça, moi, j'aimerais bien insister dessus ce matin. Il n'est pas question qu'on essaye d'être un avec le Seigneur ou même avec les frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas essayé d'être un. Il était un avec le Père à cause de la vie divine, la vie qui vient de Dieu. Et le Seigneur doit nous ouvrir les yeux. Le point n'est pas de faire autre chose. Faisons attention de ne pas être attiré loin de cette vérité. La base de la vérité. Le point, c'est que Dieu est révélé au travers de la vie. Louez le Seigneur. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et j'aimerais encore insister sur autre chose. Cette unité, elle n'existe pas dans ce monde. Cette unité, elle n'existe pas dans ce monde. Et d'ailleurs, le Seigneur n'était pas de ce monde. Non, il n'appartenait pas à ce monde. Ça, c'est aussi important qu'on le voit. Il ne faut pas copier quelque chose qui existe dans le monde. Comment nous pourrions, par exemple, être plus un? Dieu, Christ n'était pas de ce monde. Ça, on le voit aussi dans ces versets de Jean 17. Tous des points qui apparaissent dans Jean 17. Pour revenir à cette prière. Au verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Dieu, Jésus n'est pas de ce monde. Dans le monde, il y a beaucoup de désirs pour être un, d'efforts pour être un. Dans le monde chrétien, mais aussi dans le monde, quoi. Il y a beaucoup d'efforts faits pour être un. Et je dois louer le Seigneur. Parce que dans la vie de Christ, on voit ce que c'est la vraie unité. Et ça devrait toucher notre cœur, nous amener à réfléchir pour qu'on cherche plus le Seigneur et qu'on lui demande qu'il nous montre, Seigneur, comment est-ce que toi tu étais un avec le Père? Donne-moi de la lumière. Seigneur, je veux le voir, je voudrais comprendre. Je vous assure, savoir n'est pas suffisant. Il y a une dénomination, une assemblée très grande qui dit que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Mais ça ne suffit pas d'avoir cet enseignement sur la Trinité. Ça ne sert à pas grand-chose. Ce qu'il nous faut, c'est le Père et le Fils. Et parce que c'est de cette unité dont il s'agit, c'est le centre. Et c'est à cette unité que le Seigneur, que Dieu a du plaisir. J'aimerais insister à nouveau sur ce point. Il était un, Christ était un avec le Père dans tout ce qu'il faisait. Dans un endroit, dans Jean 8, au verset 29, on le voit, c'est marqué. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça, c'est une parole très importante. Toujours, c'est marqué, je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais ça ne marche pas autrement que à travers cette vie. C'est cette vie qui est le point. On ne doit pas copier quoi que ce soit. On ne doit pas essayer de copier une unité, s'efforcer d'être un comme le Père était un avec le Fils. Ouais, tu peux essayer. Mais ça ne marchera pas. Ce qu'il nous faut, c'est la vie. C'est ça qui est la lumière des hommes. La vie de Dieu. Amen. C'est vraiment ça. Et ça attire les gens. Ça attire les hommes. Si nous n'avons qu'un enseignement, bien sûr, c'est mieux que rien. Et c'est même une parole profonde. Mais c'est la vie de Dieu qui attire les hommes à lui. Il n'y a pas longtemps, je lisais un verset dans Matthieu 5, je crois. Ça m'a beaucoup touchée. Il parle de nous au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Voilà ce qu'il dit de nous. Le monde doit connaître que vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas là, on doit essayer d'être la lumière, ou bien qu'on doit l'être, comme un commandement. Non, il dit, vous êtes la lumière. C'est quand même incroyable. Mais c'est simple, ça vient à travers cette vie. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça vient à travers la vie qu'on touche, la vie de Dieu qu'on touche, la vie qu'on laisse augmenter en nous. Quand on s'ouvre à cette vie de Dieu, on est toujours plus la lumière du monde. Et là, j'aimerais encore ajouter un verset dans 1 Jean. Chapitre 1. Je vais trouver. Jean parle du Seigneur. Amen. Ce qui était dès le commencement, que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole de l'enseignement? La lettre? Non, la parole de vie. La parole de vie. Et après, il ajoute, et la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Merci Seigneur. Je veux louer le Seigneur ce matin parce qu'il a manifesté la vie. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et qu'est-ce qu'on veut? On rend témoignage de la doctrine, de l'enseignement, de l'unité? Non, Et nous vous annonçons la vie éternelle. C'est ça dont on rend témoignage, de la vie qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. C'est ça? C'est ça? C'est impressionnant. Nous aussi, on peut transmettre la vie quelque part. Le Seigneur a parlé des mots qui donnent la vie. Il était un homme qui a fait avancer le plan de Dieu. C'est tellement bon de le contempler. Ça
ne
veut pas dire qu'on doit seulement lire les évangiles. De contempler dans la parole, dans toute la parole, on peut le voir, même dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament parle du Seigneur, mais c'est clair que les évangiles, c'est vraiment très précieux, parce que ça montre sa vie sur terre, sa vie qui a exprimé le Père. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Quelque part, il était sur une vie, il avait une vie normale. Et à 30 ans, à partir de 30 ans, il a vraiment commencé cette mission de révéler le Père. C'est de ça qu'il s'agit. Voir Jésus, voir Dieu. Et dans le dernier point, j'ai parlé de l'unité entre le Père et le Fils, que c'était une bénédiction pour l'univers entier. J'ai inscrit 2 points, mais on pourra en mettre bien plus. C'est juste un petit résumé. C'est pas complet. C'était d'ailleurs pas mon but de faire un truc qui soit complet. Mais nous voulons voir le Seigneur, ce Seigneur qui a révélé la vie de Dieu en tant qu'un être humain. Nous pouvons le voir. Je voudrais répéter, c'était quelque chose de nouveau, d'unique. Hier, on avait lu un verset dans Jean 1, justement. Je crois qu'on l'a même déjà lu ce matin. Ah non, Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et en allemand, c'est même pas la grâce et la vérité sont venues, mais sont devenues réelles par Jésus-Christ. C'est ça la traduction en allemand. Le mot vérité, on peut aussi le traduire par la réalité. Tout le reste, c'était des ombres, mais au travers de Jésus-Christ, il y a la réalité de Dieu qui est venue. Aujourd'hui, nous avons la réalité. Nous n'avons pas une ombre. Nous ne faisons pas quelque chose qui indique la vérité ou la réalité. Non. Par Christ, cette réalité est pas seulement venue, il est devenu cette réalité. Et ça, c'est aussi pour nous le but. Et on doit le découvrir plus qu'à travers les hommes, cette réalité vienne sur terre. Je suis très encouragée et vraiment ça me motive à entrer plus dans cette unité. Il y a aussi quelque chose qui m'a touchée hier. Si aujourd'hui dans l'Église on demande d'où vient cette unité, quelle est cette base de votre unité, est-ce que on est que sur unis à cause d'un même enseignement? Non. Il faut que ça se soit libéré, le fait de comprendre, de voir et de vivre cette unité comme une unité qui vient de la vie de Dieu.